Le mystère de Kerevan de Delhi, deuxième partie, Florita. Chapitre 1. Boulevard des Capucines, à l'entrée d'un vaste immeuble dont le rez-de-chaussée était occupé par un bijoutier et un antiquaire, on voyait, inscrit en lettres d'or sur une plaque de marbre noir, Ulrich Mühlbach et compagnie, fourrure. En passant la porte cochère, on montait par un escalier un peu sombre à l'entresol, dont une des entrées portait la même indication, et quand on avait ouvert un des battants de la porte, on entrait dans un salon d'attente, au mur peint en gris clair, d'où l'on apercevait les deux salons garnis de chaises, de fauteuils, de porte-manteaux mobiles, où l'on suspendait les fourrures pendant que choisissait la clientèle, et d'armoires aux portes en coulisses, où elles étaient ensuite refermées. Jamais Ulrich Mühlbach ni sa femme ne mettaient le pied ici. Les vendeuses ne les connaissaient même pas. Il y avait une gérante, Madame Valentin, petite personne blonde et fraîche, entre deux âges, qui s'occupait de tout ce qui concernait la vente. Les achats de pelleterie étaient faits par un des associés, le seul que l'on vit boulevard des Capucines. Mais les clientes n'avaient jamais affaire à lui. C'était un gros homme d'une cinquantaine d'années, chauve, très bedonnant, portant des lunettes d'or sur un large nez, les paupières sans cils clignotant sur des yeux bleu faïence. Il avait un effroyable accent germanique, quoiqu'il parlât correctement le français. D'ailleurs, il ne cherchait pas à déguiser sa nationalité. D'un ton jovial, il répondait à ceux qui l'interrogeaient « Mais oui, je suis allemand de naissance, et français de cœur, étant naturalisé depuis tantôt 10 ans. » On l'appelait Monsieur Speech. Madame Valentin faisait de lui de grands éloges. Intelligent, aimable, obligeant, il avait toutes les qualités, cet excellent monsieur Speech. En tout cas, la gérante et lui possédaient celles qui font les habiles commerçants, car la clientèle se montrait fort satisfaite et augmentait chaque année. Madame Valentin, accueillante, sachant faire d'apparentes concessions, et aussi flattée à propos, était fort appréciée des acheteuses. Celles-ci, pour un certain nombre, étant des étrangères, se montraient en outre satisfaites de trouver en cette souriante petite femme une polyglotte qui leur adressait la parole dans leur langue respective avec toujours un petit, aussi petit accent allemand. Quand on lui faisait remarquer ce léger détail, Madame Valentin répondait gaiement « Où donc ai-je pêché cela? Pourtant je suis française, bien française grâce au ciel. Mais tenez, j'ai une amie qui ne connaît pour ainsi dire pas un mot d'anglais et qui a l'accent d'outre-Manche. Comme c'est curieux, n'est-ce pas? On convenait que c'était fort bizarre, en effet, et l'interlocuteur, en cherchant dans ses souvenirs, arrivait généralement à trouver un autre cas semblable. La clientèle de la maison Mühlbach était assez variée. En dehors des étrangères, on y voyait des femmes de diplomates, de financiers, de politiciens, peu d'aristocratie, ou du moins d'aristocratie authentique. Aussi, d'après les instructions de Madame Valentin, faisait-on sonner bien haut les noms qui avaient un certain relief quand ils s'en présentaient, afin qu'ils servissent de réclame pour attirer cette catégorie de clientèle à laquelle semblait tenir la gérante. Un après-midi de la fin juin, une vendeuse entra dans un des salons où la première était fort occupée autour d'une grosse dame exigeante et maussade. « Savez-vous, mademoiselle Jeanne, si l'hermine pour le manteau de madame la comtesse de Ronchat est arrivée ?»« Je crois que oui, mais informez-vous près de madame. » La vendeuse alla vers le bureau de madame Valentin et frappa. Ne recevant pas de réponse, elle entr'ouvrit la porte et constata que la petite pièce était vide. Elle revint alors au salon en annonçant « Madame n'est pas là. Elle ne tardera pas à revenir, en tout cas. Demandez à la personne qui est là si elle peut attendre. » « C'est monsieur de Ronchat. »« Eh bien, expliquez-lui la chose. Dites qu'on téléphonera la réponse à madame la comtesse, aussitôt le retour de madame Valentin. » La vendeuse alla vers la salle d'attente, où se tenait debout Maurice de Ronchat. Il déclara péremptoire, après avoir écouté la jeune fille. « Non, j'attendrai, car ma femme m'a bien recommandé de lui rapporter une réponse positive au sujet de cet arrangement qui traîne en longueur. »« Comme vous le voudrez, monsieur. » Madame Valentin ne s'absente jamais longtemps. Elle sera ici dans un moment. » Monsieur de Ronchat s'assit et croisa les mains sur la poignée de sa canne. Il était toujours poseur, toujours indolent, mais sa femme s'entendait à le secouer, à en faire son premier domestique. Il pliait, subjugué par cette volonté plus forte que la sienne, toujours épris, en outre, prêt à toutes les concessions pour cette belle Elsa, très fantasque. Elle avait la haute main sur tout, organisant à son gré leur intérieur, leur genre d'existence, le choix de leur relation. Si Maurice présentait une timide objection, elle trouvait toujours le moyen de la réduire à néant et de faire triompher son point de vue. Ainsi en était-il advenu au sujet d'un valet de chambre que le comte avait depuis 4 ans et dont il se trouvait fort satisfait. Elsa lui avait persuadé qu'il ne faisait pas l'affaire et, d'autorité, avait choisi un remplacement, un Suisse, dont Maurice n'avait d'ailleurs pas à se plaindre, car son service était excellent. La cuisinière était luxembourgeoise, le chauffeur hollandais, la femme de chambre alsacienne. Et tout ce monde, à l'office, jacassait en allemand, tenant des propos qui eussent pu donner des doutes quant à leur prétendue nationalité. Mais ce n'était pas Maurice qui se serait aperçu de quelque chose. Dans sa demeure, il n'était rien qu'un instrument passif entre les mains d'Elsa, et ne voyait que par ses yeux. Aujourd'hui, elle l'avait envoyé faire 2 commissions pour elle, l'une chez le fourreur, l'autre chez son bijoutier, un monsieur Strauss-Isinger, au sujet d'une parure qu'elle désirait transformer. Maurice était parti docilement, et maintenant il attendait, en réprimant son impatience, le retour de Madame Valentin. Au bout d'une demi-heure, celle-ci apparut, s'excusant avec empressement. « Quelle malchance ! Justement, voyant que les clientes étaient peu nombreuses en ce moment, j'étais allée faire une course. Vous venez pour l'hermine, monsieur le comte. Je l'ai précisément reçue hier, et madame la comtesse pourra venir essayer son manteau jeudi. Bien, je vais l'en informer. » Et monsieur de Ronchet s'en alla, si bien mis au pas déjà qu'il ne songeait aucunement à se dire que sa femme lui avait fait perdre son temps, le même résultat ayant pu être obtenu par l'emploi du téléphone. Tandis qu'il remontait dans sa voiture, en donnant l'adresse de Strauss-Isinger, Madame Valentin, rentrée dans son bureau, demandait une communication téléphonique. Quand elle l'eut obtenue, elle s'informa. « C'est bien vous, Madame Hilda ?»« Bon, oui, il est parti. » Puis elle raccrocha les récepteurs, et s'asseyant devant son bureau, se remit à ses comptes. Pendant ce temps, Madame de Ronchet, dans son élégant petit salon empire, s'entretenait, en allemand, avec un homme de 30 à 35 ans, très blond, grand et mince, assez bien physiquement, de mine intelligente et dure. Il était assis près d'elle et, des papiers à la main, lui donnait des explications qu'elle écoutait attentivement. « Voilà ce qu'il nous faudrait. Pensez-vous avoir ces renseignements ?» La jeune femme hocha la tête. « Pour le moment, ce sera difficile. Je n'ai pas encore tout le cercle de relations nécessaires. Pourtant, je... » Une sonnerie l'interrompit. Elle se leva, se dirigea vers le téléphone. « Allô, oui ? Ah, très bien, merci. » Puis elle revint à son interlocuteur. « Rosa me prévient que mon mari vient de quitter la maison Mühlbach. Nous avons encore plus d'une demi-heure devant nous, car ce brave Strauss va s'arranger pour le retenir quelque temps. Vous disiez, madame, que j'essaierai de faire faire cette petite enquête par Maurice. Oh, ne serait-ce pas risqué ? » Elsa eut un rire d'ironie. « Ne craignez rien, baron. Mon mari sait que je m'intéresse à la politique étrangère et il n'y voit rien de mal. Donc, il sera charmé de m'être agréable, en s'informant de certains détails intéressants près de quelques diplomates de ses amis, anciens compagnons de noces. Je m'en remets à votre prudence, car déjà vous nous avez rendu d'importants services, madame. Je n'aspire qu'à faire beaucoup plus encore. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je dois manœuvrer sans hâte apparente pour m'introduire dans les milieux qui nous intéressent. Je le comprends, mais le temps presse. Des indices nous font connaître que le moment approche. La Russie et l'Angleterre ont leurs embarras intérieurs. La France est désunie. Notre offensive foudroyante tombera comme un tonnerre sur ces moutons pacifiques, et à la faveur de leur désarroi, nous réaliserons notre rêve d'empire mondial. Le baron se redressait en prononçant à mi-voix ces paroles, et une pareille lueur d'orgueil brillait dans ses yeux clairs et dans les prunelles d'Elsa. Pendant un moment, ils gardèrent le silence. Puis le baron reprit. « Tâchez aussi de faire connaissance avec cet oncle maternel de monsieur de Ronchet dont vous m'avez parlé. Le général de Tracy ? Oui, De par la situation qu'il occupe, il est intéressant, et son fils est officier aussi. En effet. Mais ils font grise mine à Maurice, dont le mariage leur a déplu. Néanmoins, avec de la patience et de la ruse, je ne désespère pas d'y arriver. La jeune madame de Tracy est fort intime, avec une charmante américaine dont j'ai fait la connaissance l'été dernier à Cabourg. Par cette voie, j'atteindrai le but. Très bien. Vous n'avez rien appris sur cette mission militaire envoyée par le gouvernement français en Russie? Rien encore. Dommage. Il faudrait pourtant être renseigné là-dessus. J'ai su hier le nom qui me manquait au sujet des membres de cette mission. C'est le lieutenant de Pinvalas, officier de dragon. Elsa murmura. Le lieutenant de Pinvalas. Une rougeur légère montait à ses joues et ses yeux s'assombrirent pendant un moment. Le baron demanda. Vous connaissez? Oui, mais je ne peux rien savoir par lui. Parlez-en à Otto Mühlbach. Peut-être pourrait-il essayer quelque chose. La nièce de sa femme est une cousine de monsieur de Pinvalas. Le baron dit vivement. Eh, mais voilà qui vaut la peine d'être étudié. Elsa eut un rire bref. Oh, ne vous réjouissez pas à l'avance. Florita de Valser, tel est le nom de la jeune personne, ne se prêtera pas à nos combinaisons. Mon cousin Mühlbach vous le dira. Alors? Je crois à peu près impossible d'obtenir quelque chose du lieutenant de Pinvalas. Il est d'une discrétion outrée, intelligent, perspicace, oui, terriblement perspicace. Est-il riche? Très riche. Ennuyeux, ça. Quelquefois on le tient par là. Joueur, noceur? Ni l'un ni l'autre. Sérieux, chrétien convaincu, bon fils, bon frère, admirablement noté comme officier. Avec un sourire sarcastique, Elsa ajouta. Une perfection en un mot. Le baron laissa échapper un geste de mécontentement. Que le diable l'emporte. Pourtant il faudrait trouver un point faible. Est-il amoureux? Quant à cela, oui, je le crois. De qui? La jeune femme eut un froncement de sourcils et répondit brièvement. Je l'ignore. L'autre la regarda dans les yeux. Vous ne me dites pas la vérité. Elle répondit avec calme, en s'enfonçant dans son fauteuil. Croyez-le, si cela vous plaît. Mais je veux que vous me la disiez. Madame de Ronchet le toisa en ripostant. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, monsieur de Reichensfeld, tout officier prussien que vous êtes. Il me plaît de vous aider, de vous fournir des renseignements utiles. Mais qu'il soit bien entendu que je le fais de mon plein gré, dans la limite qui me convient. Le baron, abandonnant son accent hautain, dit avec un demi-sourire sur ses lèvres minces. Oui, oui, nous savons que vous êtes fort indépendante, belle comtesse. Soit, je n'insiste pas. Très persuadée que si vous jugiez qu'on pût avoir raison de ce Pinvalas par l'amour, vous me donneriez les moyens d'y parvenir. La jeune femme garda un instant le silence, les paupières mi-closes. Puis elle les releva et dit lentement « Je réfléchirai ». Comme la sonnerie se faisait entendre encore, Madame de Ronchet alla au téléphone, échangea quelques mots, puis se tourna vers Monsieur de Reichensfeld. « Strauss me prévient que mon mari vient de quitter son magasin. Bien, alors je m'esquive. » Et il se leva, prit son chapeau, sa canne, en demandant « Vous êtes toujours contente de Milsen ?»« Enchantée, un chauffeur parfait, et un espion de premier ordre. » Vous ne sauriez croire tous les renseignements intéressants qu'il glane parmi ses confrères en causant avec eux dans les bars ou ailleurs. Au revoir, chère comtesse. Prévenez-moi comme de coutume si vous avez quelque chose d'important à me communiquer. Il baisa la main que lui tendait la jeune femme et sortit du salon. Elsa fit quelques pas à travers la pièce. Elle était vêtue d'une très élégante robe d'intérieur dont la teinte mauve seyait à son teint si blanc. De riches bracelets entouraient ses poignets, car Maurice ne lui refusait rien. En revenant s'asseoir dans le fauteuil qu'elle avait quitté tout à l'heure, la jeune femme murmura. « Il m'a donné une idée, le baron, oui, vraiment. C'est à mûrir, surtout si, comme je le crains, il est impossible de les empêcher plus longtemps de se rencontrer. » Elle demeura immobile, songeuse, le front sur sa main, et c'est ainsi que la trouva Maurice en rentrant chez lui. Il s'approcha, les yeux tendres, une gerbe de rose à la main. « Tu souffres toujours de la tête, chère amie ?»« Toujours, oui. »« Pauvre Elsa !» Et il se pencha pour baiser le front blanc. « Je t'apporte des fleurs, chérie, et tes commissions sont faites. Madame Valentin à l'hermine et t'essaiera le manteau jeudi. Quant à Strauss, il paraît avoir très bien compris ce que tu désirais pour ta parure. »« Tu n'es allée que là, Mais oui, on m'a fait attendre aux deux endroits. Comme je sortais de chez Strauss, j'ai croisé sur le trottoir Madame Otto Mühlbar et sa nièce. Je n'avais pas revu celle-ci depuis 2 ans. Maintenant, c'est tout à fait une jeune fille. Et quelle beauté! Madame Mühlbar a répondu à mon salut, tout juste. Et Florita, pas du tout. Avec un rire forcé, Maurice ajouta. Elle prend naturellement fait et cause pour ses chers cousins de là-bas. Elsa leva les épaules. Que t'importe cette péronnelle? Quant à Madame Otto Mühlbar, elle a été fort aimable pour moi lorsque j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et elle m'a expliqué très franchement la nécessité où elle se trouvait d'avoir l'air de me battre froid, étant donné qu'à cause de sa nièce, elle se voit obligée de rester en bon terme avec les Pinvalas. Mais au fond, elle nous approuve, elle a pour nous une grande sympathie, et blâme l'intransigeance de la marquise, en même temps que l'hypocrisie de ton cousin. Comme à moi aussi, cette charmante femme plaît beaucoup. Nous nous arrangerons pour nous rencontrer chez les Ulrich Mühlbar, lors de la présence de Florita. Monsieur Otto Mühlbar, tout à fait pour nous aussi, désire beaucoup te mieux connaître depuis qu'il t'a vu chez son frère. Il te trouve fort aimable, causeur agréable, très au courant des menus faits de la vie parisienne. Bref, tu lui es sympathique, mon cher. Monsieur de Ronchet se rengorgea. Elsa dissimula un sourire. L'habile créature savait jouer de la vanité de son mari comme de son amour, et mêlait avec art la flatterie aveuglante au plus inflexible despotisme pour le conduire où elle voulait.